Chers frères et sœurs et chers amis, aujourd'hui, nous avons la cinquième étude concernant le salut. Et le titre sera « Quelle est la vie ?» On peut dire « Quelle est la vie ?» quotidienne d'un chrétien. Quelle est la vie quotidienne d'un chrétien? La vraie vie, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Attention, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas de mes idées, mais c'est la sainte parole de Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Vous pouvez noter Saint Jean, chapitre 3, verset 16 et le verset 36. Ainsi encore, Saint Jean, chapitre 17, verset 3. Chers amis, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Romains, chapitre 5, verset 8 et le verset 18. L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, selon 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15. Ensuite, il est dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui lui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates, chapitre 2, verset 20. Sa divine puissance nous a donc été donnée tout ce qui contribue à la vie et à la piété, et ceci au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par son propre ou par sa propre gloire, ainsi que par sa vertu, et lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites donc tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu à la science la tempérance la patience, à la patience, la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 à 8. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Et ceci afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. C'est écrit dans Tite, c'est à la fin du Nouveau Testament, Tite, chapitre 3, versets 4 à 7. C'est contre la fin du Nouveau Testament. Ensuite, il est dit dans Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 à 16, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains, chapitre 6, verset 23. Chers amis, tout d'abord, nous avons la vie de famille. La Sainte Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, verset 1. Premièrement, nous avons donc le culte de famille, donc la lecture quotidienne de la Bible. Consultez le livre de l'Éternel et lisez Ésaïe, chapitre 34, verset 16. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Les habitants de Bérée, ils reçurent la sainte parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les saintes écritures. Actes, chapitre 17, verset 11. Les saintes lettres peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture sainte est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée, chapitre 3, versets 15 à 17. Nous aurons la prière et la louange quotidienne, car il est dit, « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et ceci chaque jour, je te bénirai. » Et je célébrerai, oui, je célébrerai ton saint nom à toujours et à perpétuité. Psaume 145, versets 1 et 2. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Saint Marc, chapitre 1, verset 35. Ensuite, notez Éphésiens, chapitre 5, verset 18 à 20. Soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, versets 18 à 20. Deuxièmement, nous avons le mariage. Il est institué par Dieu, et ceci pour cette vie terrestre. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse, chapitre 2, verset 18 et verset 24. Et dans Saint Matthieu, chapitre 19, verset 4 à 6, il est dit, « Le Seigneur Jésus nous dit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Saint Matthieu, chapitre 19, versets 4 à 6. Du reste, vous ne pouvez pas trouver dans toute la Bible, que ce soit la Bible de l'abbé Crampon, des moines de Maritzou, ou une autre Bible catholique, ou les diverses Bibles protestantes, ou les diverses Bibles en langue anglaise, vous ne trouverez à nulle part que c'est écrit que Dieu désirait, ou encore pire, bénirait, que l'homme vive avec l'homme et la femme avec la femme. Si vous me trouvez un seul passage comme ça dans une Bible qui peut s'acheter dans les maisons de Bible ou dans les magasins évangéliques, librairies bibliques, etc., eh bien, il faudra que vous me montrez le passage. Ça n'existe pas, c'est contre nature, et même ce sera punissable. C'est donc pas moi qui le dis, mais il vaut mieux s'en abstenir et essayer de corriger ses tendances, voire même se faire soigner, ce n'est pas une honte. Donc le choix d'un compagnon est important. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 et 15. La conduite du mari et de la femme est importante. La Sainte Bible, parole de Dieu, nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et comme Christ s'est livré lui-même pour elle. » C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Éphésiens, chapitre 5, verset 25 et verset 28. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 5. Il est évident que comme l'être humain devient plus âgé qu'autrefois, qu'on connaît des statistiques précises que souvent l'homme, à partir de 65 ans, il n'a pas seulement des problèmes de prostate qui peuvent parfois très mal tourner, voire on peut en mourir du cancer de la prostate. Ainsi, eh bien évidemment, il est clair que la libido disparaît. Mais on peut évidemment rester ensemble dans une harmonie parfaite en s'aimant avec tout son cœur, avec toute son âme et son esprit, et avoir une harmonie encore plus belle, plus, disons, plus, on peut dire, saine dans le sens spirituel, évidemment. Et donc, encore mieux servir le Seigneur dans la spiritualité, ça c'est certain. Donc, il n'y a pas une honte ou se faire un complexe. Si une personne devient âgée, que ce soit la femme ou l'homme, de comprendre que la libido ne sera plus du tout la même qu'autrefois. Mais je pense que tout un chacun comprend cela. Donc une femme, elle est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, il est vrai que si elle est encore jeune, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Et ceci est valable également pour l'homme. Concernant la chasteté, eh bien le Seigneur Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Saint Matthieu, chapitre 5, verset 8. « Fais ta joie de la femme de ta jeunesse, car les lèvres de l'étrangère, elles distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais attention, à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Proverbe, chapitre 5, verset 18. Et vous pouvez voir d'autres versets selon les concordances que vous possédez dans vos Bibles. Que le mariage soit donc honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreux chapitre 13, verset 4. Le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, voilà les choses qui souillent l'homme. Il dit aussi, quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère, et dans son cœur, cela sera un fait. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, et est-il écrit, arrache-le et jette-le loin de toi. Évidemment, cela est seulement démontré pour bien comprendre le sérieux de rester fidèle l'un envers l'autre, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse au besoin et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Saint Matthieu, chapitre 15, verset 19 et le verset 20. Et encore Saint Matthieu, chapitre 5, verset 28 et 29. Il est dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les ivrognes n'hériteront le royaume de Dieu. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée et devient un seul corps avec elle? Mais celui qui s'attache au Seigneur, il est avec lui un seul esprit, ça change tout. Fuyez donc l'impudicité, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, verset 10, et vous pouvez ajouter les versets 15 à 20 de 1 Corinthiens chapitre 6. Marchons donc honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains, chapitre 13, versets 13 et 14. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates, chapitre 6, versets 7 et 8. Concernant la séparation et le divorce, eh bien la Bible dit ceci. Le Seigneur Jésus, il nous explique que celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Saint Marc, chapitre 10, versets 11 et 12. L'apôtre Paul dit « À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 10 et 11. Et quatrièmement, il est dit parents et enfants. C'est important qu'ils puissent s'harmoniser, car voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Ce sont le fruit des entrailles et une récompense. Psaume 127, verset 3. Alors au sujet de l'éducation des enfants, la Bible nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Proverbe, chapitre 22, verset 6. Le Seigneur Jésus-Christ dit « Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits enfants qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Saint Matthieu, chapitre 18, versets 5 et 6. Celui qui ménage sa verge haït son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Proverbe chapitre 13, verset 24. Attention de ne pas mal interpréter. Un homme ou une femme qui serait violent, méchant par-dessus tout, et colérique, et qui frappe par méchanceté, ça c'est toute autre chose, et bien entendu interdit. Au sujet de la conduite des enfants, la Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 3. Ensuite, nous avons la vie personnelle. Premièrement, il y a le manger et le boire. Dieu est celui qui nous donne. Il est dit, mon âme bénit l'Éternel, il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Psaume, chapitre 104, versets 1 et 14. Dans notre prière, nous disons, notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Saint Matthieu, chapitre 6, versets 9 et 11. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous? Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Saint Matthieu, chapitre 6, versets 31 et 32. Concernant ce que nous pouvons manger, eh bien, le Seigneur Jésus dit, rien d'extérieur ne peut, en entrant dans l'homme, le rendre impur. Cela n'entre pas dans son cœur et son esprit, mais dans son ventre. Il montrer ainsi que tous les aliments sont purs. Saint Matthieu, chapitre 7, versets 18 et 19. Du reste, le livre du Lévitique, regardez dans le début de l'Ancien Testament, le livre du Lévitique nous donne des indications très intéressantes. Mais notre bon sens devrait suffire de comprendre que manger des rats ou des porcs et des poules élevés en masse, entassés d'une façon inhumaine, cela n'est pas trop indiqué pour notre santé. Et n'oublions pas de rendre grâce à Dieu avant le repas, c'est pas défendu. Dieu a créé les aliments pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. 1 Timothée chapitre 4 verset 3. Saint Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture. Lui-même, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Actes des Apôtres, chapitre 27, versets 33 et 35. Il y a la question des vêtements. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les ont revêtis. Genèse chapitre 3, verset 21. Le Seigneur Jésus dit, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas de quoi serons-nous vêtus. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Saint Matthieu, chapitre 6, verset 31 et 32. La Bible dit également, femmes, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Première épître de Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4. Troisièmement, nous avons la propreté. Oui, l'Éternel a dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, car l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple. » Exode chapitre 19, versets 10 et 11. Saint Paul dit, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. » 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus-Christ, une libre entrée dans le sanctuaire, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux, chapitre 10, versets 19 et 22. Quatrièmement, il est question de la conversation. Nous ne pouvons pas dire n'importe quoi et n'importe où, n'importe comment. L'Éternel met une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Psaume 141, verset 3. Il n'est donc pas défendu de faire attention à ce que nous disons, et surtout à qui nous le disons, et comment nous le disons. Par tes paroles, tu seras justifié, mais par tes paroles, tu seras également condamné. Saint Matthieu, chapitre 12, verset 37. Alors, comment nous faut-il parler ? Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Exode, chapitre 20, verset 7. Le Seigneur Jésus-Christ dit : Ne jurez aucunement que votre parole soit oui, oui, ou non, non. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Saint Matthieu chapitre 5, versets 34 à 37, ainsi que Saint Matthieu chapitre 7, verset 1. Ensuite, nous avons la vie sociale. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 16. Nous avons les autorités. Dans le monde, le Seigneur Jésus dit : Rendez donc à César ce qui est à César, que ça vous plaise ou pas, et à Dieu ce qui est et ce qui revient à Dieu. Saint Matthieu, chapitre 22, verset 21. Dans l'Église, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Hébreux chapitre 13, verset 17. Deuxièmement, nous avons le travail et le service. La volonté de Dieu, c'est que les hommes travaillent. L'Éternel Dieu a pris l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Genèse, chapitre 3, verset 23. L'apôtre Paul écrit : Nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si simplement être jaloux parce qu'il y en a qui ont plus que moi-même, et ainsi de vouloir être fâché avec une hostilité épouvantable, jalousie, mesquinerie, envie, et que je me dis, ça ne me sert à rien de travailler, puis ça ne me plaît pas. Je préfère de vivre de certains expédients, trafics, etc. Alors, ne t'étonne pas que ça finira par mal tourner. Non, je répète, toute la Sainte Bible enseigne que tu travailleras à la sueur de ton front. Et là, l'apôtre Paul, Saint Paul, il nous exhorte. Et nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui ne travaillent pas du tout. mais qui s'occupe de futilité. Nous invitons donc ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur, gentiment, poliment, avec amour. Travail. Voyez-vous, Jésus-Christ a mangé leur propre pain en travaillant paisiblement. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 10 à 12. Comment le travail doit-il être fait? Le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, il l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, il l'est aussi dans les grandes. Saint Luc, chapitre 16, verset 10. Quatrièmement, la question de l'argent et la question des biens. L'honnêteté. Tu ne déroberas point, tu ne convoiteras aucune chose qui appartienne à ton prochain. Exode chapitre 20, verset 15 à 17. Dans toute affaire frauduleuse, celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution en double. Exode chapitre 22, versets 1, 3, 5 et 9. Sachez, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici Seigneur, je te donne, plutôt je donne aux pauvres, la moitié de tous mes biens. Et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » C'est ce qu'a dit Zachée. Et Jésus lui a répondu, « Eh bien, sache que le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. » Saint Luc, chapitre 19, versets 8 et 9. Donc, que notre cœur ne s'attache pas à l'argent, à mammon. Le Seigneur Jésus-Christ dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon, qui veut dire l'argent. Saint Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21 et le verset 24. Je connais personnellement une dame, sans critiquer, puisque nous n'avons pas le droit de critiquer, mais nous avons le droit de comprendre, de voir, de réfléchir, d'avoir une logique de pensée. Eh bien, elle a plusieurs immeubles dont elle touche ceux qui payent l'appartement, n'est-ce pas? Elle touche tout cela et elle n'est jamais contente. En plus, elle essaye d'obtenir des aides de partout et elle n'en a jamais assez. Elle mange tout ce qui est de moins cher possible, des actions parfois même presque passées de date, et donc, ainsi, elle devient vieille, ce qu'elle est maintenant, courbée presque jusque par terre, c'est certainement une conséquence de punition de Dieu, et elle est malheureuse. Elle est maigre comme un clou, et vous voyez, je vais simplement vous dire, C'est pas une bénédiction, cela. Je ne vois pas où est la bénédiction de cela. Nous ne pouvons pas manger deux repas en même temps. Nous ne pouvons pas porter deux pantalons ou deux robes en même temps. Nous ne pouvons pas porter deux paires de souliers en même temps. Donc, à quoi amasser exagérément, remplir les armoires? Je ne crois pas que c'est la bonne chose. Et de plus en plus, il y a des personnes qui sont persécutées dans ce monde. En effet, le Seigneur Jésus dit, le serviteur, il n'est pas plus grand que son maître. Nous oublions cela. S'ils m'ont persécuté, dit le Seigneur, eh bien, sachez qu'ils vous persécuteront également. Saint Jean, chapitre 15, verset 20. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples, « On mettra les mains sur vous, et l'on vous persécutera, on vous jettera en prison à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint de votre Père qui parlera en vous. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Saint Luc, chapitre 21, versets 12 à 15, ainsi que Saint Matthieu, chapitre 10, versets 20 et 28. Il dit du reste aussi, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux, il appartient à eux. Heureux serez-vous donc lorsque on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, même inventé de toutes pièces. Tout cela à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense, elle sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Saint Matthieu 5, versets 10 à 12, ainsi que Saint Matthieu 10, verset 22. Nous avons aussi les faux cultes, attention. L'idolâtrie, elle sévit partout. Dieu dit, tu ne feras point d'image taillée, même si ces images ont un effet religieux ou une intention très religieuse. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Exode, chapitre 20, versets 4 à 5. C'est pas à moi de juger, mais j'ai vu une sœur qui embrassait à tout moment le crucifix qu'elle avait pendu sur sa poitrine. Eh bien, je voudrais simplement que vous réfléchissez. Est-ce que vraiment il en résultera une bénédiction de faire cela? Alors répétons ce que la Sainte Bible dit. Tu ne feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Je pense que embrasser le crucifix à tout moment de la journée, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Le Seigneur Jésus-Christ dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, là oui, et tu le serviras lui seul. Saint Matthieu chapitre 4 verset 10. L'apôtre Paul, il dit, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou encore à de la pierre sculptée, même si c'est très artistique ou même si c'est dans un but de se faire de l'argent. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Il a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple, et c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, et je serai pour vous votre Père. Je serai pour vous un vrai Père, et vous serez pour moi des fils et des filles. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 16 à 18. Éloignez-vous donc de la magie et de toute bonne aventure. Les devins prophétisent des faussetés, les songes mentent et consolent par la vanité. Zacharie chapitre 10 verset 2. Qu'on ne trouve point chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 12. Pour terminer, chers frères et sœurs et chers amis, voici la conclusion. La mort est la porte d'une vie plus riche. Je ne vais pas vous mentir en vous disant « Réjouissons-nous de mourir !» Mais en mettant notre vie entièrement entre les mains du Seigneur, nous pouvons lui faire confiance. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui tous ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous, les vivants, qui serons restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13, 14, 16 et 17. Amen. Amen. Et nous allons terminer par la prière. Prions. Notre Père qui est aux cieux, vraiment, c'est toi, ô mon Dieu, qui es notre Père, sans autre. Je désire donc aujourd'hui être avec toi. Ton nom soit sanctifié. Ô mon Dieu, que ton nom est pauvrement sanctifié. Ton règne vienne. Aujourd'hui, j'espère entrer en celui-ci. Ta volonté soit faite en la terre comme au ciel. Je suis ici, Père, afin que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Que Jésus-Christ, le vrai pain, soit aujourd'hui ma nourriture. Et nous pardonne nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ô mes amis, de bon cœur je pardonne à tous, tant amis que ennemis. Et ne nous induis point en tentation, mais nous délivre du mal. Ô mon Seigneur, sans aucun doute, tu me délivreras, car j'ai en toi fixé toute mon espérance. Amen. Amen.